Paul Heusy, Un coin de la vie de misère. La marchande de plaisir. L'automne, le parc Monceau est d'une mélancolie élégante, discrète, bien élevée. Il n'a aucune de ces brutalités de dévêtement par lesquelles se signalent les bois et les jardins ordinaires, qui, du jour au lendemain, montrent leur nudité sans le moindre voile. Un grand nombre de ces arbres conservent leurs robes. Ceux que la nature cruelle force à se dépouiller y mettent une décence extrême. À peine une feuille tombée, elle est enlevée et cachée. On n'y voit jamais de ces rondes de feuillage sauvages, sautant, échevelés et impudiques, comme des danseuses de Mabille. Chaque matin, ces allées se ratissent, ces pelouses se rasent, ces tapis de lierre se peignent, ces parterres frisent leurs coquettes bordures. Seulement, les fleurs d'été aux éclatantes couleurs ont disparu. Les teintes générales se sont assourdies. Le vert sombre domine, troué çà et là par des troncs noirs ou des fûts de colonnes aux pierres grises. Le vert sombre et le brun loutre s'allient merveilleusement, se dit, une après-midi de novembre 1877, en jetant un coup d'œil sur la traîne de sa jupe de soie, Madame de Viremont, la femme du banquier bien connu de la rue de Lisbonne. Et, prise soudainement d'un accès de tendresse maternelle, elle sonna sa femme de chambre. Dès que celle-ci parut, « Dites à Tom, ordonna Madame de Viremont, d'atteler le coupé et à Germaine de m'amener Gaston. J'irai avec lui aujourd'hui au parc Monceau. » D'ordinaire, elle laissait Germaine, la bonne, promener son fils, bambin de 4 à 5 ans, tandis qu'elle se rendait au bois. Gaston descendit bientôt, tout frétillant de joie. Quelques minutes après, la voiture emportait la mère et l'enfant. Elle les déposa dans la grande avenue qui traverse le parc. Il avait un peu gelé la nuit précédente. Par places, à l'ombre, au pied des arbres, on apercevait encore des traces de givre blanc. L'air était vif et piquant, mais sec et bon aux narines. Madame de Viremont, chaudement enveloppée dans une pelisse russe, les mains emmanchonnées, l'aspirait en marchant avec délice. Autour d'elle, Gaston allait et venait, bondissant à toute minute comme un jeune daim. De temps à autre, elle lui souriait. Le gamin, vêtu d'une sorte de justaucorps et de culotte de velours noir, une toque d'astrakhan sur l'oreille, le cou dégagé, émergeant d'un large col de fraîche batiste, était charmant. Elle le contemplait avec orgueil, le comparant aux autres enfants de son âge qui couraient dans le parc. Oh, il n'en était pas un qui eût un costume d'un goût aussi exquis. Puis, reportant sa pensée sur elle-même, elle se réjouissait de mouvoir sa personne dans ses allées, au gravier fin, au milieu de ses plantes, sous ses arbres, près de ses corbeilles, dont les grâces mondaines répondaient si bien à ses propres grâces. Sa figure, qu'elle exposait sans crainte aux rayons inoffensifs du soleil automnal, resplendissait de satisfaction sous le duvet, presque imperceptible du reste, de poudre de riz qui la couvrait. Ah, la ravissante journée, et que l'existence était donc douce chose! Gaston entraîna sa mère vers la naumachie où s'ébattait une flottille de canards et s'amusa longtemps de leur gloutonnerie à avaler les morceaux de pain qu'il avait apportés et qu'il leur jetait de toute la vigueur de son petit bras. Ensuite, il s'écria « Maman, donne-moi un sou !»« Un sou ?» dit Madame de Viremont. « Pourquoi faire ?»« Pour acheter des plaisirs à Madame Sanson !» « Germaine m'en donne toujours un, quand nous sommes ici. »« Mais tu as à la maison tous les bonbons que tu désires, et qui sont bien meilleurs. Oh, moi, j'aime mieux les plaisirs. Je vais te conduire, tu verras, c'est très joli. On tourne, on a un numéro, et on a autant de plaisir que le numéro. Si c'est 3, on a 3 plaisirs. Le plus gros numéro, c'est 12. Mais moi, je ne l'ai jamais eu. Viens, dis, maman, tu veux ?
Soit, répondit madame de Viremont. Allons près de madame Sanson.
Gaston, frappant avec enthousiasme ses mains l'une contre l'autre, courut en avant. Arrivé à la porte du parc, qui s'ouvre sur le boulevard de Courcelles, il cria vivement d'une voix gaie « C'est ici !» et montra une vieille femme assise, en dehors de la grille, sur un tabouret bas, près d'un tonnelet de tôle. Madame de Viremont pressa le pas et remit à l'enfant le sou convoité. Tandis que Gaston, qui avait agité l'aiguille du tonnelet, en suivait les mouvements avec une attention concentrée et impatiente, sa mère tourna machinalement la tête vers la marchande. Elle aperçut un visage long, effrayamment maigre, jaune d'un jaune verdâtre, à la peau tiraillée en tous sens par des rides, comme un parchemin froissé, au milieu duquel luisaient à peine, d'une lueur pâle, deux yeux tristes, semblant absorbés dans quelque rêve. Elle vit que les mains, sans chair, de la pauvre vieille étaient tremblantes, que son dos voûté, incomplètement couvert d'un méchant châle de laine noire, frissonnait au moindre souffle du vent. La grande dame tressaillit. Elle eut, comme une perception rapide, des existences misérables qui se traînent dans certains coins de Paris. Pourquoi cette femme, à l'aspect douloureux, se trouvait-elle là, exposée aux rigueurs de l'atmosphère, au lieu d'être dans une chambre bien chaude, entourée des soins que réclamait son âge? Comment en était-elle réduite à vendre des plaisirs à la porte d'un jardin public? Elle était donc entièrement dépourvue de ressources? Elle n'avait ni mari, ni fils, ni fille, ni bru, ni gendre? Son commerce ne devait lui rapporter que quelques sous. Comment parvenait-elle à subsister? 1000 questions de ce genre se présentaient à l'esprit de madame de Viremont. La pitié la gagnait. Elle se sentait avoir froid comme la vieille. Instinctivement, elle rentra son cou dans la bordure soyeuse de sa pelisse. Tout à coup, Gaston cria « 10, maman, j'ai 10 !» Et il répéta 20 fois ce mot « 10 » avec un accent sonore et fier, plaisant à entendre. Les doigts décolorés de madame Sanson soulevèrent le couvercle du tonnelet. Elle prit lentement un rouleau de plaisir emboîté l'un dans l'autre et le tendit à Gaston qui allongea ses mains pour le recevoir en lançant des « Oh, oh !» gros de contentement. Madame de Viremont, un instant arrachée à son attendrissement par les exclamations joyeuses de son fils, tira de son porte-monnaie une pièce de 5 francs qu'elle déposa sur le tonnelet et fit un pas pour se retirer. La marchande leva le front et, sans dire un mot, d'un geste significatif, montra la pièce à la grande dame. Celle-ci comprit. « Pardon, » murmura-t-elle d'un ton ému en reprenant l'argent. Et, songeuse, elle s'éloigna avec Gaston, qui grignotait, à dents gourmandes, ses plaisirs. La vieille femme continua à frissonner au vent, et ses yeux tristes retombèrent dans leurs rêves. À 2 ou 3 reprises, durant le reste de la journée, l'image de la vieille marchande avec sa figure jaune et ses regards pâles passa devant madame de Viremont, lui causant chaque fois un léger malaise. Aussi le soir, dans son salon, en parla-t-elle à monsieur Boiveau, qu'elle prit à part. Elle le pria de s'informer de cette femme et de voir si on pouvait lui être utile. Monsieur Boivot, après avoir loué sa bonté d'âme en paroles délicates, prononcées à demi-voix, auxquelles elle répondit par une moue délicieuse, promit de faire les démarches sollicitées. Et la grande dame, la conscience apaisée, se mit à causer sur le ton le plus animé avec ses voisins, deux jeunes gens d'une élégance irréprochable, du bal prochain de l'ambassade d'Autriche. Monsieur Boivot touche à la soixantaine. Avec ses cheveux blancs, ses favoris blancs, son menton rasé de frais, le linge fin de sa poitrine, sa mise soignée, ses souliers aux semelles minces, il est de ceux de qui l'on dit, au premier abord, « c'est un beau vieillard propre ». Plus tard, certains sourires de ses lèvres, dont l'inférieur tombe un peu, certains clignotements troubles de ses petits yeux, donnent à penser. Il a des mains épiscopales, grassottes et douces. On ne peut rencontrer de manière plus aimable, plus empressée que les siennes. Sa voix possède des accents tendres, onctueux, qui chatouillent agréablement l'oreille. Elle ne s'élève jamais. Elle s'épanche en lente modulation, semblable à des murmures. Il parle volontiers de morale. Il s'extasie avec des regards vers le ciel sur les vertus des sœurs de la Croix, de saint Vincent de Paul, des frères des écoles chrétiennes, des religieuses et religieux de toute espèce et de tout habit. À l'entendre, le péché d'impureté est odieux. Pourtant, des bruits singuliers courent de temps à autre sur les bonnes qui dirigent son ménage de célibataire. Monsieur Boivot fait partie de plusieurs congrégations. Il est le secrétaire habituel des comités de charité qui se forment dans le faubourg Saint-Honoré. Il apporte à ses fonctions un zèle, une ardeur, une mansuétude que chacun admire. Il court les galetas, visite les mansardes, s'enquérant avec un soin scrupuleux des sentiments des malheureux qui demandent une aumône. Dans ses mains, celle-ci ne s'égare jamais. Elle ne va qu'aux gens dont la piété est notoire. Et elle est accompagnée d'exhortations touchantes qui exhale une bonne odeur de sacristie. C'est donc à lui que s'adressent les dames du faubourg financier lorsque des bouffées de bienfaisance montent à leur cervelle. Le lendemain de sa conversation avec Madame de Viremont, M. Boivot entra en campagne. Il ne tarda pas à découvrir que la marchande de plaisir demeurait rue d'Anières. Il se rendit à l'adresse indiquée, où la concierge, au nom de Madame Sanson, s'écria « Au sixième, porte à droite !» Monsieur Boivot, en homme accoutumé à de pareilles ascensions, gravit lentement l'escalier obscur aux marches boueuses, usées par le milieu, en s'arrêtant de temps à autre pour respirer. La chambre qu'occupait la marchande de plaisir prenait jour par une fenêtre à tabatière, percée dans le toit, et se haussant ou s'abaissant au moyen d'une crémaillère. Sur la muraille, de longues raies rousses, encore humides, partant des coins inférieurs de la fenêtre et descendant jusqu'au parquet, montraient le chemin habituel de la pluie. Deux grossières chaises de paille à dossier droit et un lit maigre, plat, dont la couverture ne dépassait pas les bas-côtés, formaient tout l'ameublement de l'étroit logis. L'air y était glacé et vous saisissait à la gorge dès l'entrée. Monsieur Boivot boutonna soigneusement son surtout. « Madame Sanson ?» demanda-t-il en s'avançant. « C'est moi, » dit d'une voix comme effacée la vieille femme, se levant à demi de la chaise sur laquelle elle était assise près de l'âtre où brûlaient péniblement trois ou quatre margotins. « Je suis chargé par Madame de Viremont. »«
Qui est-ce, Madame de Viremont ?» interrompit la marchande.
« Une personne très riche qui vous a vu au parc Monceau et qui vous veut du bien.
« Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me veulent du bien, »
fit lentement la vieille femme, se parlant à elle-même. Madame de Viremont, continua de son ton doux M. Boiveau, sans relever cette réflexion, « désirerait vous être agréable. Elle pense que vous êtes pauvre. »
« Oui, je suis fort pauvre.
Elle aimerait à vous venir en aide. »
« Je ne demande pas la charité. »
M. de Boiveau fut un instant silencieux.
« Je n'ai pas eu l'intention de vous offenser, »
reprit-il en adoucissant davantage son accent.
« Mais ne seriez-vous pas heureuse de recevoir du bois, des vêtements chauds ?»«
Mon fils ne reçoit pas du bois et n'a pas de vêtements chauds. »«
Vous avez un fils ?»«
J'avais un fils et un petit-fils. »
Mon petit-fils, un chérubin de 4 ans, est mort pendant le siège. Il était malade. Le médecin disait qu'il fallait lui donner du lait. Mais il n'y avait pas de lait pour nous autres.
Et votre fils?
Oh, mon fils est loin, bien loin, au-delà de la mer. Il est dans ce pays d'enfer que vous nommez la Nouvelle-Calédonie.
Et... La voix effacée de la vieille, en prononçant ces derniers mots, s'imprégna d'une amertume rauque. « Depuis longtemps ?»«
Les Versaillais l'ont arrêté, le 3 juin 1871. Je l'ai vu encore une fois dans sa prison, puis je ne l'ai plus vu.
Voilà, 6 ans et demi. » On entendit à peine ces paroles qui s'éteignirent dans un sanglot. Monsieur Boiveau ne savait que dire. Cette douleur profonde, si simple dans son expression, le gênait.
« La religion, madame, » finit-il par s'écrier, « console la religion !»
exclama la pauvre femme, relevant la tête qu'elle avait tenue jusqu'alors abaissée vers le foyer et regardant en face son interlocuteur.
« La religion ! Je n'en veux pas de votre religion !» C'est un prêtre qui a dénoncé mon fils.
Ah, il faisait sans doute son devoir, articula béatement M. Boiveau.
Est-ce que le devoir consiste à enlever un enfant à sa mère?
Mais votre fils était un criminel. Il avait pris les armes contre l'assemblée de Versailles. Les yeux de la vieille marchande perdirent leur pâleur et s'emplirent d'éclairs.
Monsieur, dit-elle avec une énergie que l'on n'eût pas soupçonnée dans ce corps chétif et usé,
et d'un ton auquel sa voix, presque semblable à un râle, donnait une étonnante solennité.
« Je ne sais ni qui vous êtes, ni ce que vous pensez. Moi, je n'ai pas d'instruction, je suis fille, femme et mère d'ouvrier. Mais j'ai beaucoup songé toute ma vie. Je ne fais que songer, depuis que je suis privé de mon fils Michel. Il me reste peu de jours à vivre. Écoutez-moi, les gens de votre classe ont peut-être quelque chose à apprendre de ceux de la mienne. »
Et, au saint homme stupéfait, elle se mit à conter ceci.
« Mon père avait assisté à la grande révolution. » Et il en avait gardé des souvenirs qui le brûlaient. Quand il en parlait, sa figure tout entière brûlait. Je me souviens encore de ses yeux, qui étaient comme 2 charbons allumés. Je ne pourrais pas vous répéter ce qu'il disait, mais cela me remuait toute. Et je sentais bien qu'en ce temps-là, on avait fait beaucoup pour le pauvre monde, qui ne fut plus alors aussi méprisé, aussi regardé bas, qu'il l'avait été auparavant. Mon père était un honnête homme, travaillant dur, ne fréquentant point les cabarets, et qui ne mentait jamais. Il racontait ce qu'il avait vu.
Monsieur Boiveau voulut interrompre la vieille femme. Celle-ci l'arrêta d'un geste et poursuivit.
Il y avait encore beaucoup à faire. Même après la Révolution, le pauvre monde avait perdu une partie de ce qu'il avait obtenu.
On avait beau peiner fort, on arrivait difficilement à vivre. Mon père et ses amis se disaient quelquefois entre eux « Ah, si la République revenait !» Mais ils n'étaient pas nombreux ceux qui pensaient ainsi. À l'époque dont je vous parle, il y a plus de 50 ans, la plupart des ouvriers parlaient surtout de l'autre, de celui qui est mort à Sainte-Hélène. En 1830, j'étais marié depuis 2 ans. Je venais d'avoir mon petit Michel qui tétait encore. Je me mis à trembler quand j'entendis dans la rue des femmes prononcer le mot de barricade. Nous demeurions au faubourg du Temple avec mon père. Mon mari et lui travaillaient dans le même atelier. Ils rentrèrent de l'ouvrage plus tôt que de coutume et demandèrent à manger. Je n'oublierai jamais cette soirée. Je me hâtais de préparer le repas. En allant et venant, je les regardais l'un et l'autre. Ils étaient muets. Mon mari ne tournait pas la tête de mon côté. Je n'osais les interroger. Ils mangèrent silencieusement. Puis mon père, se levant, dit « Ma fille, sois courageuse. Nous allons nous battre. C'est pour la République. » Je ne répondis pas. J'avais des larmes, plein les yeux. Mon mari me prit dans ses bras et me serra contre sa poitrine. Le petit Michel, dans son berceau, jeta un cri. Mon père se précipita vers lui, l'éleva à la hauteur de sa tête, lui baisa les joues et le passa à mon mari, qui me le rendit après l'avoir longuement embrassé. Mon père dit encore « Allons !» et ils sortirent. Je restai debout toute la nuit. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Mais en même temps, je sentais que leur devoir d'homme était d'agir comme ils agissaient. Le lendemain, mon mari revint accompagné d'un brancard sur lequel on apportait le corps de mon pauvre père qui avait été tué à une barricade de la rue Saint-Denis. La marchande de plaisir se tut quelques secondes, comme abîmée dans ses souvenirs. « C'était, reprit-elle, la première perte que je subissais pour cette cause-là. Hélas, ce ne devait pas être la seule. Après 1830, les choses n'allèrent pas mieux. La République ne vint pas. C'étaient les ouvriers qui s'étaient battus. Les premiers jours, on leur dit de belles paroles. Puis, on ne pensa plus à eux. Ce furent les personnes de votre rang, monsieur, qui profitèrent seuls de la Révolution. Mon mari et moi, nous vécûmes comme nous pûmes, élevant notre Michel et rencontrant souvent de longues semaines de chômage. Le chômage! Avoir des bras solides, ne demander qu'à travailler et ne pas trouver de travail. Vous ne savez pas quelle triste idée cela donne de cette terre où les uns n'ont rien tandis que les autres ont tout. Nous allâmes ainsi jusqu'en 1848. Au commencement de l'année, mon mari et ses amis eurent un peu de joie. La République était enfin proclamée. Mais cette joie fut bien courte. Après avoir pris le fusil au mois de février, il fallut le reprendre au mois de juin. Mon mari ne fut blessé ni la première, ni la seconde fois. Mais, après les journées de juin, comme les insurgés n'avaient pas réussi, on les appela des criminels, ainsi que vous avez tout à l'heure appelé Michel. Criminel, mon mari, lui, le plus brave des époux, et le dévouement même, est-ce que c'était un voleur, un faussaire ou un assassin? Risquer sa vie pour ce que l'on croit juste, s'exposer à laisser dans le besoin une femme et un enfant que l'on aime ardemment, sans autre but que le triomphe de sa cause. Est-ce être criminel? Ah, je ne suis qu'une femme ignorante, mais j'ai compris alors ce que signifiait ce mot dans la bouche de ceux qui l'emploient. On s'en sert pour excuser les boucheries que l'on commet après la victoire. J'ai vu moi qui vous parle. J'ai vu, au cloître Saint-Benoît, fusiller des hommes qui étaient prisonniers et désarmés. Ils tombaient les uns sur les autres. J'en ai encore l'horreur dans les yeux. »
Monsieur Boivot fit un signe de dénégation.
« Je l'ai vu, vous dis-je, » répéta avec hauteur la marchande. « Plus tard, je le sais, on nie ces tueries lâches et on défend de les rappeler. Seulement, nous nous en souvenons, nous autres. Mon mari échappa aux poursuites qui suivirent ces journées. Pendant 2 mois, je l'ai tint caché, lui et Michel. » Michel n'avait cependant pas pris part à l'insurrection. Il avait 18 ans à peine, et son père lui avait ordonné de rester près de moi. Ce n'est pas sans gémir qu'il avait obéi, le vaillant enfant, mais il avait coutume de respecter ses volontés. Je les cachais, l'un et l'autre. On aurait pu les prendre tous les deux. On ne se gênait pas pour arrêter les premiers venus. L'année suivante, notre Michel tomba au sort et partit pour l'Algérie, où il séjourna 4 ans environ. Ce fut heureux, car s'il avait été à Paris en 1851, on l'eût peut-être forcé de tirer contre son père. C'est le 3e jour de ce mois-là que mon mari a été tué, rue Homer. Nous habitions tout près, rue Volta. La veille au soir, des amis étaient venus, on avait parlé des affiches, du traître. Mais on ne savait encore ce qu'on ferait. On se défiait des bourgeois. Le lendemain, nous entendîmes des coups de fusil. Au premier bruit, mon mari descendit. Je le suivis quelques instants après. Il y avait, chez un marchand de vin de la rue Homer, plusieurs femmes d'ouvriers, comme moi, dont les maris se battaient. Nous regardions à travers les vitres et après chaque décharge, nous allions ramasser les morts et les blessés. J'en relevais 3. Le 4e fut celui avec lequel je vivais cœur à cœur depuis 24 ans et qui ne m'avait jamais donné une minute de chagrin. Il était mort. Tandis que je soulevais sa tête, plus blanche que le linge, et que je la baisais en pleurant, à genoux près de lui, une balle me frappa à mon tour. Et la vieille femme, ouvrant sa camisole avec une impudeur dédaigneuse, montra, au-dessus d'une de ses mamelles flétries, une large place où la chair semblait desséchée. « Je tombais à côté de mon mari, » poursuivit-elle, « et je ne sais ce qui se passa ensuite. Je ne repris connaissance que plusieurs jours après. J'étais veuve. Mon fils seul me restait. Il revint bientôt de l'armée. Le pauvre enfant m'aima pour 2. Nous vivions entre nous dans les souvenirs de nos chers morts. La République n'existait plus. Nous eûmes des hauts et des bas, comme toujours. Il ne pensait qu'à moi. Il m'entourait de soins. Jamais fils n'eut pour sa mère plus de tendresse. » Le son de la voix de la marchande de plaisir allait s'assourdissant. Elle se tut de nouveau et ses regards s'abaissèrent vers le sol. Monsieur Boivot, mal à l'aise, s'efforçait de donner à sa physionomie une expression de compassion. « J'ai bientôt fini, » continua après un instant la mère de Michel, en relevant le front. Les années s'écoulèrent. Il ne se maria que très tard, et sa femme mourut en donnant le jour à ce pauvre petit être qui était toute ma joie, tout mon bonheur, et qui, comme je vous l'ai dit, faute de bon lait, s'éteignit pendant le siège. Pourquoi n'est-ce pas moi qui suis parti alors, au lieu de ce mignon chéri? Mon Michel avait fait le coup de feu aux fortifications contre les Prussiens. Un soir, en rentrant, il me dit « Mère, il paraît qu'à Versailles, on veut capituler, mais nous ne le voulons pas. » Il avait la figure enflammée. Je crus entendre parler son grand-père, l'homme de la première révolution. Il sortit pendant plusieurs semaines il ne revint que quelques minutes et à divers intervalles pour m'apporter sa solde qui était notre seule ressource. Vous savez ce qui suivit. Quand tout fut fini, il m'apparut pâle, déchiré, maigre à faire peur. 4 jours, il se tint dans la chambre sans la quitter. Le 5e, on vint l'arrêter. Voilà notre vie, monsieur. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne veux pas de votre charité? Si mal que je sois d'ailleurs, je suis toujours beaucoup mieux que mon Michel, là-bas. Que sont mes privations à côté des siennes? Pourrais-je me dorloter ici, tandis que je sais qu'il pâtit dans son corps et dans son âme, qu'il endure 1000 souffrances? C'est de lui seul que j'ai besoin. Je n'ai pas d'autre besoin. 6 ans et demi, que c'est long. Le reverrai-je avant de mourir? On parle d'une amnistie. Ah, qu'elle vienne rapidement. Sinon, je ne serai plus. Sur ces mots, la marchande de plaisir s'arrêta. Les dévotes oreilles de M. Boivot n'en avaient que trop entendu. Il balbutia 2 ou 3 paroles inintelligibles et quitta la chambre. Il courut dire à Madame de Viremont « Votre protégée est une folle. » Et la femme du banquier eut bientôt oublié la marchande du parc Monceau. Trois semaines plus tard, comme M. et Mme de Viremont dînaient avec M. Boivot et quelques personnes, et que Gaston, vu le petit nombre d'invités, avait été admis à la table, l'enfant s'écria tout à coup au dessert, tandis qu'on mangeait une crème accompagnée de cigarettes, dont l'aspect ressemble à celui des plaisirs. « Tu ne sais pas, maman, Mme Sanson ne vient plus au parc Monceau. J'ai entendu le garde qui disait comme ça à Germaine qu'elle n'était pas descendue depuis 2 jours, qu'on avait été chercher le commissaire de police, qu'il était venu, qu'on avait ouvert la porte et qu'on avait trouvé Mme Sanson par terre et qu'un médecin avait dit qu'elle avait eu une attaque et qu'elle était morte de faim. Mourir de faim, maman, c'est mourir quand on n'a pas à manger, n'est-ce pas ? Personne ne répondit. Un petit frisson secoua les épaules de Madame de Viremont, et Gaston, passant brusquement, avec la mobilité de son âge, à une autre idée, demanda « Encore un peu de crème, maman, veux-tu bien ?» Février 1878.